Le journal avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Ce n'est certainement pas le moment pour desserrer la bride dans la lutte contre le Covid-19. Déclaration signée du Premier ministre Jean Castex, cité dans les colonnes du journal Le Monde ce matin, et ce à quelques heures d'une conférence de presse visant à faire un premier bilan du confinement instauré il y a près de 2 semaines, ou quand le chef de gouvernement semble préparer les esprits à l'idée d'un non-allègement des mesures de restriction.
Coup de théâtre dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle 2007.
Oui, hier, Ziad Takieddine, le sulfureux intermédiaire, mais aussi l'un des principaux témoins à charge contre Nicolas Sarkozy, a retiré ses accusations.
À l'étranger, nous irons tout d'abord dans ce journal aux États-Unis, où la hausse continue du nombre de cas de coronavirus force les autorités locales à prendre de nouvelles mesures, Thomas.
Oui, nous intéresserons également au retour d'Evo Morales dans son fief en Bolivie, un an après avoir été poussé hors du pouvoir par la rue. Et puis, parce que la propagation d'informations fausses ou manipulées en ligne n'a cessé de croître pendant l'épidémie, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, le président du Forum sur l'information et la démocratie, également secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Maintien de l'ordre, une image à pacifier. Nous en parlerons avec notre invité Fabien Jobard. Il est sociologue et directeur de recherche au CNRS, auteur de Politique du désordre au seuil.
C'est devenu désormais un rituel chaque jeudi après que le Conseil de défense a rendu ses ultimes arbitrages dans la matinée. Le gouvernement tient, lui, sa conférence de presse, un point d'étape toutefois particulièrement attendu aujourd'hui. 2 semaines après le reconfinement des Français, et alors que se multiplient les appels des commerçants à plus de souplesse, sans compter les interrogations sur un éventuel durcissement des restrictions pour les lycées. Sauf que c'est plutôt le statu quo qui devrait a priori prédominer, même si le Premier ministre pourrait tout de même vouloir donner des perspectives de calendrier, notamment à 6 semaines du début des vacances de fin d'année, habituellement précédées d'une intense activité économique. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors pour l'heure, le contexte sanitaire demeure très préoccupant, le nombre de malades ne cesse d'augmenter. Voilà pourquoi Pierre, le Premier ministre risque bien ce soir de doucher les espoirs de tous ceux qui rêvent d'un assouplissement des restrictions.
Eh bien pour Jean Castex, c'est l'heure du premier bilan après 2 semaines de confinement. Ce bilan d'étape promis par le chef de l'État qui avait lui-même laissé entrevoir un assouplissement des mesures. Alors que les autorités de santé redoutent un pic de l'épidémie la semaine prochaine, le gouvernement est aujourd'hui confronté à un désarroi des petits commerçants, des restaurateurs ou encore du monde de la culture, et plus généralement confronté à une lassitude de l'opinion sur les mesures de confinement. Et c'est parce que l'attente est grande, parce que l'opposition reproche également au gouvernement un exercice de solitaire du pouvoir, que l'Élysée a diffusé ce matin quelques images du huis clos du Conseil de défense réunis autour du chef de l'État. L'objectif est de montrer que la prise de décision se fait en concertation avec les ministres concernés, avec le directeur général de la Santé, une gestion de crise en direct que le Premier ministre devra ce soir expliquer, argumenter, tout en donnant des perspectives aux Français. Et c'est bien là toute la complexité de l'exercice de cette prise de parole hebdomadaire, devenue en quelque sorte sacralisée, car le temps politique, économique, social n'est pas le temps des médecins qui ont une vision de la crise en nombre de semaines, alors que l'opinion a une attente immédiate de résultats. Cette clause de revoyure promise par le chef de l'État ne sera en aucun cas ce soir une clause de réouverture. Au contraire, Jean Castex va nous demander de poursuivre des efforts jusqu'au 1er décembre. Commerce non essentiel fermé, protocole sanitaire renforcé dans les lycées, contrôle d'attestation intensifié dans les rues, un respect plus strict du confinement, seule arme efficace pour faire baisser le taux de reproduction et de circulation du virus et surtout pour désengorger les services de réanimation dans les hôpitaux.
Merci Pierre Neveu. Alors cela fait 15 jours maintenant que tous les commerces ne vendant pas de produits jugés essentiels pour la poursuite de l'activité économique sont contraints à la fermeture. Seule concession, la livraison et le retrait de commandes restent permis pour l'ensemble des magasins, y compris ceux frappés de fermeture administrative. Et puis reste évidemment la vente en ligne. C'est la raison pour laquelle La Poste se prépare à un pic d'activité inédit à partir de la fin du mois et jusqu'à Noël. En l'occurrence, une vague de recrutement de livreurs sans précédent est en cours, mais déjà Annabelle Grelier, les syndicats craignent qu'elle soit insuffisante pour livrer tous les colis à temps pour les fêtes.
Le secteur du transport et de la livraison de marchandises n'ont pas à avoir peur du durcissement des restrictions en temps de confinement. Ils en profitent à plein. Colissimo, la filiale de La Poste pour la livraison de colis qui détient la moitié du marché, s'attend à un pic d'activité pour les fêtes de fin d'année. Un pic à un niveau encore jamais vu, pouvant atteindre les 4 millions de colis par jour. Colissimo annonce une hausse de 30% par rapport à l'année dernière, une hausse qui représente plus de 100 millions de colis. Dans ce contexte, de nouveaux services vont apparaître, tels que l'appel téléphonique du livreur juste avant la livraison à domicile. Les clients devraient également pouvoir retirer plus rapidement les colis au dépôt, dans les bureaux de poste à plus forte affluence. Mais y aura-t-il assez de livreurs et de postiers pour acheminer et distribuer tous ces colis ? La direction annonce un renfort de personnel, 9000 recrutements de CDD ou d'intérimaires, des recrutements saisonniers toujours en cours, de nombreux postes sont toujours à pourvoir, s'inquiètent les syndicats, estimant de leur côté que les renforts risquent d'être insuffisants et qu'il en faudrait au moins plus du double afin de gérer cet afflux tout en respectant le protocole sanitaire. Pourtant, le secteur se robotise à grande vitesse. Colissimo vient de mettre en service deux nouvelles plateformes de tri à Douvrin dans le Nord et Tillé dans le Val d'Oise. Deux plateformes capables chacune de traiter 35 000 colis par heure.
Alors, on l'a dit, deux semaines après avoir ordonné un nouveau confinement, l'exécutif a déjà fait savoir qu'il était encore trop tôt pour en évaluer pleinement ses effets sur la situation épidémique. En revanche, chez plusieurs de nos voisins européens, des signaux encourageants sont à noter. C'est le cas notamment en Irlande. Premier pays européen à décider d'un reconfinement, c'était le 21 octobre dernier. Là-bas, l'incidence du virus dans la population a baissé de plus de moitié. D'autres effets encourageants se font jour en Belgique, en République tchèque, mais aussi en Espagne. Quelques jours après l'annonce d'essais prometteurs sur un possible vaccin contre le coronavirus, comment s'assurer le cas échéant que tous les pays auront bien un accès équitable au dit vaccin, comme d'ailleurs au possible futur traitement de la maladie? Près d'un demi-milliard de dollars devrait être promis aujourd'hui pour la mise en œuvre d'un dispositif en ce sens. C'est du moins ce qu'ont annoncé les organisateurs du Forum de la paix, le troisième du genre, qui se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain à Paris, une édition entièrement consacrée au monde de l'après-Covid et aux façons de sortir de la pandémie. La droite exulte ce matin au lendemain du retrait surprise des accusations de Ziad Takieddine contre Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Quand le numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, l'assure, jamais nous n'avons douté, le patron des Républicains LR, Damien Abad, renchérit, la vérité triomphe toujours. Alors, avant d'évoquer une quelconque machination contre l'ex-président, ainsi que l'interprète déjà la droite, et parce qu'il revient encore à la justice d'établir les responsabilités, seule certitude aujourd'hui, Ziad Takieddine a effectué, c'est vrai, hier une volte-face pour le moins spectaculaire en retirant donc ses accusations contre l'ancien chef de l'État. Alors avant d'apprécier la nature véritable de ce rebondissement de la part d'un homme, rappelons-le, sinon aux abois, au moins en cavale, revenons avec vous, Florence Turme, sur la genèse de ce dossier pour lequel Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour recel de détournement de fonds publics, corruption passive et financement illégal de campagne électorale.
Oui, il faut remonter au printemps 2012 et aux accusations lancées par le fils du colonel Kadhafi, puis à l'enquête publiée par Mediapart. Une information judiciaire est ouverte. Le 19 avril 2013, Ziad Takieddine, poursuivi dans un autre dossier, affirme détenir des preuves de ce financement, ce qu'il confirmera avec des détails plus circonstanciés fin 2016. L'homme d'affaires franco-libanais affirme avoir personnellement remis 5 millions d'euros en liquide à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet, Claude Guéant, ce qui aboutit à la mise en examen de l'ancien président de la République en deux temps. D'abord corruption passive et financement illégal de campagne électorale, puis récemment association de malfaiteurs. Dans ce dossier, les juges n'ont pas retrouvé de preuves matérielles formelles, mais mis au jour des mouvements de fonds suspects, avec également d'autres déclarations à charge, notamment celle de l'ancien argentier du régime de Kadhafi, et puis un autre personnage clé, Alexandre Djouri, soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire, est actuellement assigné à résidence en France. Il nie en bloc les faits qui lui sont reprochés.
Alors aujourd'hui, on se rapproche donc de la fin de l'instruction. Quel crédit, Florence, peut-on accorder à ces nouvelles déclarations de Ziad Takieddine ?
Ziyad Takieddine, c'est l'homme aux multiples versions, ce qui lui a valu le surnom de Zigzag, pas seulement dans ce dossier d'ailleurs, mais également dans le volet financier de l'affaire Karachi. Durant l'enquête, il a affirmé avoir remis 6 millions de francs à Thierry Gobert à la demande de Nicolas Bazir, deux proches d'Edouard Balladur, mais il s'est ensuite rétracté. Lors du procès en octobre 2019, il était aussi poursuivi pour faux témoignage sous serment. Le parquet avait requis 5 ans de prison avec incarcération immédiate. Ziyad Takieddine ne s'est pas présenté le jour du jugement. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, il s'est en quelque sorte mis à l'abri à Beyrouth car il possède la double nationalité franco-libanaise. Dans l'affaire du présumé financement libyen, la défense de Nicolas Sarkozy a de son côté épuisé quasiment tous ses recours contre l'enquête menée par les juges d'instruction. La Cour d'appel de Paris a validé cette enquête tout récemment. Les juges peuvent bien sûr décider d'une nouvelle audition de Ziyad Takieddine, mais c'est en fonction de tous les éléments du dossier qu'ils décideront ou pas de renvoyer Nicolas Sarkozy devant un tribunal correctionnel.
Depuis l'annonce samedi dernier de la victoire de Joe Biden, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite, appuyant cela par plusieurs élus républicains. Alors faut-il pour autant en déduire que la victoire du démocrate pourrait encore être remise en cause? Jusqu'à quand cette contestation des résultats peut-elle durer, quoi qu'il en soit, 8 jours après l'élection américaine? Joe Biden presse le pas dans la transition. Hier, le président élu a choisi Ron Klain, un démocrate chevronné, pour être son chef de cabinet à la Maison-Blanche. Et puis, toujours aux États-Unis, après une hausse très rapide du nombre de cas de coronavirus depuis plusieurs semaines, voilà que les hôpitaux de plusieurs régions se retrouvent aujourd'hui de nouveau sous tension, forçant les autorités locales à prendre de nouvelles mesures pour tenter de faire face à l'épidémie. Ainsi, par exemple, que dans l'Utah, le port du masque en public a été rendu obligatoire. Dans le Minnesota, le gouverneur a lui ordonné la fermeture des bars et des restaurants à 22h, idem dans l'État de New York. Alors, ces quelques exemples reflètent en réalité les difficultés à mettre en place des mesures de restriction dans un pays où, depuis le début de l'épidémie, le gouvernement fédéral n'aura jamais donné de direction ferme au niveau national. Et c'est encore le cas s'agissant des salles de cinéma qui, depuis le mois de mars, restent fermées à New York et Los Angeles, soit les deux plus grands marchés des États-Unis qui, à eux seuls, représentent environ un tiers des recettes. Conséquence directe, les studios préfèrent attendre avant de sortir leur super production. Or, sans blockbuster, bien entendu, eh bien, les multiplexes peinent, sans parler des petites salles indépendantes concurrencées par les plateformes de vidéos en ligne. C'est un reportage au sud de Los Angeles, signé Loïc Piala.
Ian Van Dyce a presque perdu l'habitude. Ouvrir la porte du Art Theater, un cinéma d'art et d'essai à Long Beach. Les affiches du Portrait de la jeune fille en feu, l'un des derniers films montrés ici avant la fermeture du 23 mars, n'ont pas bougé.
Là, on aura une paroi en plastique pour protéger nos employés. On a aussi acheté de l'équipement de nettoyage. Ça ressemble à un sac à dos avec une sorte de pistolet, un peu comme dans ce film SOS Fantôme. Vous videz les sièges et en 10 minutes, sec et désinfecté.
Techniquement, la salle de 480 places est prête à accueillir une centaine de personnes pour respecter la distanciation sociale. Mais la réouverture, c'est pour quand ?
On n'en a aucune idée. Si vous me demandez mon avis, je pense qu'on ne rouvrira pas avant le 1er mars.
Ce cinéma associatif a souffert avec 8 mois de fermeture. Il a fallu négocier avec les banques et licencier le personnel.
On a reçu des donations de la communauté. Des bourses du comté. C'est une année difficile, mais on va survivre. La vraie question, c'est est-ce que les gens vont revenir ?
Dans le comté voisin d'Orange, les cinémas ont pu rouvrir, mais faute de spectateurs, beaucoup ont réduit le nombre de séances quotidiennes pour limiter leurs coûts de fonctionnement.
L'élection de Joe Biden va-t-elle marquer un sursaut diplomatique ? Tous les regards sont désormais tournés vers le nouveau président élu, lequel a d'ores et déjà promis de changer de cap, en particulier après la campagne de pression maximale exercée par son prédécesseur, coupable, selon lui, d'avoir, je cite, rapproché l'Iran de la bombe atomique. Alors il faudra sans doute du temps avant que ne se dessine un changement de position complet. À ce titre, il sera intéressant de voir comment se positionnera la mission américaine lors du Conseil des gouverneurs de l'AIEA prévu la semaine prochaine. Et en attendant, et sans surprise, Christian Chéneau, eh bien, Téhéran continue pour sa part à accumuler de l'uranium.
Depuis que Donald Trump a déchiré l'accord de Vienne, les Iraniens ont décidé de sortir des clous de cet arrangement international tout en évitant de couper les ponts avec l'AIEA, le gendarme de l'ONU sur les questions nucléaires. La République islamique ne fait pas mystère qu'elle a relancé son programme nucléaire de façon progressive depuis 2018. La quantité d'uranium faiblement enrichi dépasse désormais de 12 fois la limite autorisée estime aujourd'hui l'AIEA. Des centrifugeuses de dernière génération ont aussi été installées sur le site souterrain de Natanz. Au total, l'Iran dispose désormais d'un stock d'uranium faiblement enrichi de 2,4 tonnes, soit nettement supérieur aux 202 kilos prévus par l'accord de 2015. Mais Téhéran ne dispose pas encore des quantités nécessaires à la fabrication d'une bombe atomique. Depuis le début, les responsables iraniens affirment que ces mesures sont réversibles et que si les États-Unis allègent les sanctions économiques, eh bien, ils reviendront dans le cadre de l'accord de Vienne. À Téhéran, la victoire de Joe Biden à la présidentielle a été un soulagement pour les artisans d'un compromis avec l'Occident, à commencer par le président Hassan Rouhani, qui y voit une possibilité pour Washington de rattraper les erreurs du passé. Bref, les prochaines semaines seront cruciales dans l'attente des premiers signaux envoyés par le nouveau locataire de la Maison Blanche à destination de l'Iran.
Au Burkina Faso, les attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, n'auront jamais cessé depuis 2015. Les autorités tentent tant bien que mal d'organiser les élections présidentielles et législatives prévues la semaine prochaine. Hier, en pleine campagne électorale, donc 7 soldats ont été tués, plusieurs autres blessés ou portés disparus dans une embuscade tendue dans une province du nord du pays, frontalière du Mali et du Niger. Un an, presque jour pour jour, après avoir été chassé du pouvoir par la rue, mais aussi l'armée. Evo Morales est de retour en Bolivie à la faveur de la victoire de son dauphin à la présidentielle du 18 octobre dernier. Il a été reçu par des militants inconditionnels qui attendaient son retour dans son fief à Chimoré. C'est un reportage signé Alice Campagnol.
C'est dans une ambiance de fête qu'Evo Morales, le camarade Evo comme on l'appelle parfois, a été accueilli à Chimoré dans la région du Chaparré. C'est ici qu'il s'est fait connaître il y a plus de 20 ans comme leader syndical des producteurs de coca. Au marché de la coca, justement, on fête le retour de l'enfant du pays, Fortuna Gomez.
Quand il était au pouvoir, il n'y avait pas tous ces morts, toutes ces larmes, toutes ces souffrances. Mais maintenant qu'il est rentré, tout va aller mieux. Il nous a vraiment manqué pendant tout ce temps.
Sur le tarmac de l'aéroport, ils sont des milliers à s'être réunis pour écouter son discours. L'ex-président, tout sourire, n'a rien perdu de son charisme.
Le mouvement vers le socialisme, ce n'est pas seulement le mouvement indigène ou ouvrier, ça inclut aussi les classes moyennes et tous les secteurs de la société. Camarades, merci, je suis impressionné, regardez, vous êtes si nombreux. C'est ça, l'unité du peuple bolivien.
Cette foule, ce sont les irréductibles soutiens à l'ex-président, ceux qui ont décidé de lui rester fidèles. Du côté de la passe, pourtant, on sent une certaine distance. Luis Arce, le président récemment élu, son dauphin, n'est pas venu l'accueillir. Mais Evo Morales a affirmé ne pas vouloir revenir en politique, bien que son discours ait parfois laissé penser le contraire.
Midi 48 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Comment mettre fin aux infodémies ou comment combattre la circulation virale de rumeurs et de fausses informations sur les réseaux sociaux et autres moteurs de recherche en temps de pandémie? Ce néologisme infodémie, donc créé par l'Organisation Mondiale de la Santé, a été lâché pour la première fois le 2 février dernier. Nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous combattons une infodémie, avait alors déclaré le directeur général de l'OMS. Et c'est donc pour remédier à cette propagation d'informations fausses ou trompeuses que le Forum sur l'information et la démocratie publie aujourd'hui un rapport avec pas moins de 253 recommandations aux États et aux plateformes numériques. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, le président de ce forum, également secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors précisons peut-être pour commencer que ce forum créé il y a un an n'est pas un forum au sens où on l'entend habituellement, mais plutôt un organe composé d'experts destinés donc à mettre en œuvre les principes fondamentaux de cet espace global de l'information. S'agissant de ces fameuses infodémies, dans quelle mesure, monsieur Deloire, y avait-il urgence selon vous à agir? Vous avez des mots très durs dans votre rapport, vous parlez notamment de chaos informationnel et même de danger de mort, plus exactement de mise en péril des démocraties.
On est effectivement dans une espèce de chaos informationnel parce que sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques telles qu'elles sont aujourd'hui structurées, il y a une forme d'avantage pour tout ce qui est extrémiste, accusatoire contre les personnes, contre qui est favorable aussi aux informations fausses. Et donc il est important que les systèmes démocratiques, qui d'une certaine manière ont délégué aux plateformes numériques, aux réseaux sociaux, l'organisation de la délibération démocratique, réimposent leurs principes, réimposent des règles qui sont les règles du débat démocratique. Et donc pour ça, il y a besoin de donner des responsabilités aux plateformes. Ça, je pense qu'aujourd'hui, presque tout le monde est d'accord. Mais la question, c'est quelle responsabilité? Et en fait, quand on se pose cette question, c'est extrêmement compliqué. Parce que les plateformes, elles font un travail qui n'existait pas du tout dans l'ancien monde. Et donc il faut trouver de nouvelles règles de droit qu'on puisse leur imposer. Ça, c'est l'objet du travail fait par le Forum sur l'information et la démocratie et de ce rapport. C'est des recommandations très concrètes sur comment on peut rédiger le droit à partir de maintenant. C'est une forme de matière première pour la régulation.
Avant d'en venir effectivement à ces nouvelles possibles règles de droit, est-ce que vous avez des exemples récents d'informations fausses donc qui se sont propagées en ligne pendant cette épidémie et qui auraient donc menacé notre démocratie?
Mais en fait, à l'occasion de l'épidémie, mais en dehors de l'épidémie de Covid elle-même, on a eu des exemples récents très importants. Par exemple, ce qui est arrivé avec l'assassinat terrible de Samuel Paty. On voit bien que les choses se sont cristallisées sur les réseaux sociaux et on voit bien que les tentatives des États pour des choses comme ça de faire de la régulation de contenu, c'est-à-dire d'essayer de qualifier juridiquement des contenus pour les retirer du web, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il faut trouver une régulation qui est plus structurelle, où on va au cœur des algorithmes et la régulation, elle porte sur le fonctionnement des algorithmes et non pas seulement sur les résultats. J'aurais pu citer un autre exemple, qui est tout ce qui s'est passé à l'occasion de l'élection américaine, qui, je crois, a montré à quel point il pouvait y avoir des diffusions de fausses informations. Et on s'est retrouvé dans la situation où des plateformes numériques, Facebook, Twitter, ont pris des décisions éditoriales. Alors, on peut, à court terme, se dire « ça permet de lutter contre les mensonges de Donald Trump ». En réalité, c'est extrêmement inquiétant que des plateformes qui, pour Facebook par exemple, ont plus de 2,5 milliards d'abonnés dans le monde. On est très au-delà de la concentration des médias, on est à des échelles très supérieures. Qu'on leur laisse la possibilité de faire ça, c'est un danger funeste pour les démocraties. Donc il faut se réapproprier, il faut pas que ce soit les plateformes qui puissent prendre ce genre de décisions discrétionnaires, il faut que ça soit imposé dans le fonctionnement des algorithmes.
Vous plaidez pour la transparence en somme de ces plateformes, la modération des contenus, mais aussi évidemment des sanctions donc en cas de non-conformité sous forme par exemple d'amende, parfois même la fermeture de l'accès au marché d'un pays. Quand on voit les difficultés de la France par exemple à légiférer pour imposer des mesures à Facebook ou Twitter, est-il possible de croire qu'en cas de non-conformité de telles sanctions pourraient réellement s'appliquer?
Il y a deux questions. Il y a la question effectivement de la nature du droit, du droit qu'on doit créer et qui doit être pertinent, qui doit pas être attentatoire à la liberté d'expression, qui doit évidemment pas être attentatoire non plus à la vie privée, mais qui quand même puisse imposer des obligations. Et puis, il y a aussi le rapport de force avec les plateformes. Et là, c'est vrai qu'on est dans une forme, il peut y avoir un piège politique, qui est qu'au fond, des responsables politiques ou un parlement qui prendraient les mesures les plus appropriées pourrait se voir critiqué par des consommateurs qui diraient « mais moi, ça porte atteinte à mon compte, etc. » Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à retrouver un moyen pour que les systèmes démocratiques puissent peser et imposer leur vue à ces intérêts privés qui sont représentés par la logique marchande des plateformes. Quand je dis logique marchande, c'est dans le meilleur des cas, parce que c'est aussi une logique politique quand c'est des plateformes chinoises à la solde du Parti communiste. Et donc, voilà, il y a quel droit et comment on parvient à l'imposer.
Vous parliez à l'instant de ces systèmes démocratiques. Parmi les 38 pays qui ont signé votre partenariat donc sur l'information et la démocratie, on retrouve, je crois, plus de la moitié d'entre eux des pays européens, également l'Australie, le Canada, c'est-à-dire des pays où la démocratie est finalement déjà bien implantée. Il n'y a en revanche pas de pays fondés, disons, sur la pénalisation de l'expression publique. Et pourtant, c'est bien l'urgence démocratique que vous pointez, vous, aujourd'hui, du doigt. Est-ce que vous cherchez aussi à convaincre ces régimes-là, qui, grâce aux réseaux sociaux, sont susceptibles de colporter facilement de fausses informations?
En fait, quand on veut défendre la démocratie, il faut une stratégie politique. Et là, on se retrouve pour la première fois avec un espace public qui, du fait de sa digitalisation, est globalisé. Alors qu'avant, les espaces publics, ils étaient nationaux, il y avait des équilibres juridiques intérieurs, une applicabilité du droit, tout ça aujourd'hui n'existe plus. Donc il faut reconstruire le système de garantie démocratique pour la délibération publique, pour l'espace public. Et quoi de mieux que de commencer quand même avec un groupe d'États un peu restreint, mais qui sont des démocraties et qui surtout, à travers le partenariat intergouvernemental international sur l'information et la démocratie, se sont engagés sur la base d'un texte fort qui avait été initié par Reporters sans frontières et par une commission que nous avions créée avec des Nobel, des spécialistes des nouvelles technologies, des journalistes en proie à des régimes autoritaires. Donc, il faut d'abord que se rassemblent dans une espèce de coalition les États qui ont une conception démocratique assez forte pour, dans l'ensemble du monde, arrivent à imposer leur vision, pour qu'ils arrivent à imposer leur vision et à réentrer dans un rapport de force avec les dictatures. Parce que le danger aujourd'hui, c'est que ceux qui édictent les normes de l'espace public, ceux qui, au fond, adoptent les lois et de manière non transparente, c'est d'un côté Mark Zuckerberg de Facebook et de l'autre côté Xi Jinping de la République populaire de Chine.
On terminera par ces mots. Merci Christophe Deloire, président, je le rappelle, du Forum sur l'information et la démocratie, secrétaire général de Reporters sans frontières, d'avoir répondu à notre invitation. On termine avec un mot du temps rapide pour cet après-midi, majoritairement bien dégagé sur l'ensemble du territoire, même si des résidus de la perturbation arrivée sur la Bretagne pourront engendrer encore quelques grisailles et de rares averses. Quant aux températures, elles afficheront entre 13 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction. 12h56 sur France Culture, l'heure de vous retrouver Olivia Gesbert pour la grande table des idées.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, on est ensemble jusqu'à 13h30 avec, comme un jeudi sur deux, un peu après 13h20, le rendez-vous de la médiatrice. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez maintenant sur France Culture. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, maintien de l'ordre, une image à pacifier, les manifestations sous surveillance, où en est-on de la relation police-manifestant ? Photo état des lieux ce midi, alors que la loi pour une sécurité globale arrive le 17, la semaine prochaine, à l'Assemblée nationale. Un texte qui envisage, dans certaines mesures controversées, polémiques, de restreindre notamment la liberté des manifestants de photographier ou de filmer les policiers. Notre invité, il est sociologue, Fabien Jobard est directeur de recherche au CNRS, auteur avec Olivier Filleul de « Politique du désordre au seuil », un livre qui interroge la montée en gamme des violences dans les manifestations, des affrontements entre la police aussi et les manifestants, dans un contexte de tension sociale toujours plus forte, en tout cas plus forte qu'auparavant. Bonjour à vous Fabien Jobard.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que dans ce livre-essai, vous avez tenté de théoriser ce qu'on appelle un peu communément le jeu de chat et de la souris qui se joue dans des défilés, dans des manifestations, et de manière plus scientifique, ce rapport entre ordre et désordre.
C'est effectivement un peu l'ambition qui a été la nôtre. En fait, avec Olivier Filleul, on a travaillé dès la moitié dès le milieu des années 90 sur les questions de maintien de l'ordre. Et on a travaillé du côté tant manifestation que du côté institution en charge de maintenir l'ordre, institution répressive, police et gendarmerie. Et on s'est remis au travail sur ces questions aux alentours de la fin de la première décennie 2000 et puis tout récemment encore. Et donc on a tenté de faire le bilan de 30 ans de recherche pour essayer de comprendre au fond comment dans la longue durée, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, l'État envisage le rapport à la contestation de rue et comment les formes que prennent d'un côté les contestations, de l'autre leur répression ou leur gestion évolue en fonction des époques, en fonction des politiques, en fonction des conjonctures économiques. Donc on a essayé de à la fois d'avoir un point de vue un peu technique sur ce qu'est le maintien de l'ordre, ses armements, ses personnels, ses équipements, ses doctrines, et puis d'insérer ce point de vue-là dans une perspective plus large.
Vous parlez de réinterroger les évidences sous le signe de Michel Foucault. Qu'est-ce qu'une manifestation, qu'est-ce qu'elle engendre, quelle mise en mouvement, quelle réaction, comment le droit de manifester aussi a-t-il évolué et au gré de quelle friction, de quelle tension dans ce rapport entre ordre et désordre. Vous écrivez dans cet ouvrage Politique du désordre, le maintien de l'ordre est indexé à des politiques du désordre entre le désordre que les manifestants entendent produire ou ne peuvent empêcher et celui que le pouvoir tolère ou encourage. Et c'est ce que vous étudiez à travers quelques grandes dates et notamment les évolutions de doctrine de maintien de l'ordre qui ont pu avoir lieu. Il y a un fait, je pense, accessible et perceptible pour beaucoup, c'est l'évolution et la montée des violences ces deux, trois dernières années dans les défilés, dans les manifestations. Comme beaucoup, est-ce que vous avez, vous, Fabien Jobard, manifesté ou assisté, regardé des manifestations dans les années 90 et récemment encore avec le mouvement des Gilets jaunes, comme beaucoup, on imagine que vous avez vu cette différence. On va repartir d'une date, si vous voulez bien, 1er décembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes.
Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime.
Vous me faites pitié, vous me faites pas peur. Je vous dis ouvertement, oui, moi j'ai cassé samedi, oui, je me suis battu avec un CRS.
J'ai eu la peur de ma vie, vraiment. J'avais jamais connu ça, une telle haine envers nous.
Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées ou que l'arc de triomphe soit souillé.
Mon fils, je ne peux pas lui acheter des cadeaux à Noël. J'irai jusqu'au bout, je me battrai pour mes enfants.
C'était vraiment sans pitié. Tout le monde s'est regardé, mais qu'est-ce qu'on fait? C'était violent. Vraiment, là, c'était une guerre.
Bouclier! Bouclier!
Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence.
Mais c'est pas une manifestation, c'est la guerre!
1er décembre 2018, Fabien Jobard, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit? On a parlé de scènes de guerre sur ces images des Champs-Élysées. Qu'est-ce que vous percevez dans cette journée, dans ce 1er décembre 2018 de si différent?
Alors, je perçois pas la guerre, parce que je pense que un des soucis qu'il y a dans la gestion des désordres et dans leurs commentaires, c'est le suremploi du mot guerre. S'il y a vraiment une chose qui distingue le maintien de l'ordre en France, les opérations de police des manifestations ou de la protestation en France, avec tout un ensemble d'autres pays, notamment les pays latino-américains et même les États-Unis, c'est qu'on n'emploie jamais l'arme à feu. Et ça fait quand même une différence majeure. Je pense que ceux qui parlent de guerre peuvent l'être sous l'effet de l'émotion, bien sûr, parce que quand on est pris dans de telles scènes, on a évidemment énormément de mal à prendre la mesure des choses. Par ailleurs, il y a des armes de guerre qui sont entre les mains des policiers, mais l'arme à feu n'est jamais employée. Et c'est bien sur fond, d'ailleurs, de cette éviction progressive tout au long du XXe siècle de l'arme à feu que se déroulent des violences, des destructions, des dégradations, des atteintes aux